L'Happy Hour scientifique.
C'est goûtu, ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Bonne santé les gueux.
Halloween, c'était il y a une semaine, mais on va quand même rester dans le thème aujourd'hui dans l'Happy Hour scientifique, puisqu'on va vous parler de la mort, et plus précisément de la mort cérébrale. Dans nos consciences collectives, la mort est souvent perçue trivialement comme étant le moment où le cœur s'arrête de battre. Pourtant, les recherches scientifiques montrent que c'est plutôt du côté du cerveau qu'il faudrait se tourner pour décrire cette frontière floue entre la vie et la mort. Mais alors, que se passe-t-il dans un cerveau en train de mourir? Quels sont les mécanismes neuronaux et physiologiques à l'œuvre au moment du décès? Et puis, que penser des expériences de mort imminentes? Pour répondre à toutes ces questions et plonger dans les mystères de la mort, nous recevons aujourd'hui Stéphane Charpier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de neurosciences à Sorbonne Université et vous êtes l'auteur de l'ouvrage La science de la résurrection paru aux éditions Flammarion. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans la Psy à voir scientifique.
Merci à vous de m'avoir invité.
Et évidemment, je ne suis pas tout seul aujourd'hui puisque je suis accompagné de Alban et Chiara qui viendront nous rafraîchir avec quelques gorgées de science en début d'émission. Bonsoir toutes les deux.
Bonsoir.
Cléo qui sera à mes côtés lors de l'interview.
Bonsoir.
Et puis Jocelyn qui nous a préparé un magnifique Caps ou pas Caps qui nous rejoindra tout à l'heure. Et puis également Nathan qui nous parlera de nécromancie dans sa chronique. Et enfin Sacha qui sera aux tireuses aujourd'hui à la réalisation avec Pierre-Yves. Salut Sacha.
Salut à tous.
Avant de passer à l'interview avec Stéphane Charpier pour commencer cette émission, je laisse donc la parole à Alban et Chiara pour les gorgées de science.
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça?
Eh bien donc bonjour tout le monde, bonjour Chiara.
Bonjour tout le monde. Alors Alban, t'as de quoi abreuver notre science de savoir aujourd'hui?
Eh bien sûr, et on commence fort avec un cas des plus surprenants. Il y a presque 3 ans, Anthony Thomas Hoover, un citoyen américain de 36 ans, a vécu certainement l'une des situations les plus effroyables qu'il lui sera donné de vivre. Le 25 octobre 2021, à la suite d'une overdose, le patient appelé TJ est admis en urgence à l'hôpital du Kentucky aux États-Unis. Le lendemain, il est déclaré en état de mort cérébrale. Comme il est inscrit sur la liste des donneurs d'organes, une opération de prélèvement est organisée dans la foulée. Alors que les chirurgiens commencent la procédure, TJ se met à bouger sur la table d'opération et commence à pleurer. Aussitôt, les soignants affolés annulent l'opération. Finalement, TJ a échappé au pire. Aucun organe n'a été prélevé et le patient présumé mort repartira vivant de cette histoire. 3 ans plus tard, son cas révélé au grand public fait l'objet d'une enquête par les autorités fédérales.
Oui, mais du coup, comment TJ il a pu se réveiller?
Eh bien, tout simplement car il n'était pas en véritable état de mort cérébrale. Il a été victime d'une erreur de diagnostic. Normalement, pour s'assurer qu'une personne est bien en état de mort cérébrale, les médecins vérifient d'abord l'absence totale de conscience, des réflexes du tronc cérébral et de la respiration spontanée. Or, sa sœur avait signalé au médecin avoir vu son frère ouvrir les yeux et la suivre du regard, une observation qui aurait dû les alerter. Car si certains comportements peuvent effectivement survenir de manière spontanée, un mouvement dirigé des yeux est impossible car il impliquerait un fonctionnement du tronc cérébral. Puis les médecins regardent l'activité électrique du cerveau. Dans le cas de TJ, l'électroencéphalogramme était complètement plat. On le croyait bel et bien mort. En fait, la confusion viendrait de l'origine de son coma, une overdose. Car l'abus de certaines substances, comme les barbituriques, les benzodiazépines ou les opiacés, peut donner lieu à des tableaux cliniques qui ressemblent extérieurement à une mort cérébrale. Plusieurs jours de surveillance sont alors nécessaires avant de déclarer le patient mort. Et il est probable que les réanimateurs de l'hôpital ont manqué de patience. Mais alors, pas d'inquiétude pour autant, une telle erreur diagnostique n'a jamais été rapportée en France et les spécialistes attestent qu'un tel incident dans le pays serait strictement impossible. Rappelons d'ailleurs que donner ses organes permet de sauver jusqu'à 7 vies quand même.
Hyper intéressant, merci Alban. Moi je vais parler d'un tout autre type de, sujet, mais effectivement c'est une potentielle mort de la biodiversité. Je compte pas vous donner de statistiques glauques ou des listes d'espèces menacées, même si c'est très intéressant et que j'aurais pu le faire. Mais non, aujourd'hui je vais vous parler de 2 événements majeurs qui ont lieu récemment en politique et qui pourraient avoir un impact sur la crise écologique. Donc le premier c'est que la COP16 sur la biodiversité, elle s'est tenue du 21 octobre à début novembre à Cali en Colombie. Et d'après le site de notre gouvernement français, je cite, « La COP16 est une occasion unique de faire avancer la lutte contre l'effondrement de la biodiversité au niveau mondial. » Eh bien apparemment, les représentants français ont oublié de lire leur propre site internet avant d'y aller, puisque pendant les négociations, l'ensemble des pays développés se sont montrés plus ou moins hostiles à la multiplication des fonds pour le climat pour les pays peu développés. Ils estiment en effet que le mécanisme actuel, hébergé par le Fonds mondial pour l'environnement, est suffisant. Bah oui, il faut pas trop leur en demander quand même, surtout qu'ils ont bien voulu aider les peuples autochtones dont Hippie les terres en leur donnant quelques sous-sous. Je critique, mais c'est quand même positif, car oui, effectivement, ils ont enfin créé une instance permanente dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, ou CDB, qui représente les peuples autochtones et les communautés locales. Donc ça leur permettrait quand même de leur donner une voix plus importante au sein de ces débats. Le deuxième événement majeur est bien évidemment l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc oui, je suis désolée, je suis pas très positive aujourd'hui, mais c'est un peu difficile de l'être quand un président climato-sceptique est élu. En effet, Trump a décidé qu'il fallait démanteler les agences fédérales de protection de l'environnement, donc EPA, et d'observation océanique et atmosphérique, donc le NOAA. Donc deux organisations américaines qui sont responsables d'actions majeures dans la protection de la biodiversité. En effet, durant sa campagne, Donald Trump et son nouveau vice-président, donc J.D. Vance, autre climato-sceptique notoire, ont qualifié les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de harcèlement envers l'industrie pétrolière, rien que ça, et la montée du niveau des océans comme une opportunité économique pour l'immobilier balnéaire. Voilà, voilà. Donc tout ça ne présage rien de bon, pardon, sachant que pendant son dernier mandat, son gouvernement était revenu sur 208 règlements environnementaux, d'après le média spécialisé Grist. Donc je sais pas vous, mais moi ça me fait bien plus peur qu'Halloween la semaine dernière.
Carrément.
Merci beaucoup Alban et Chiara pour ces gorgées de science. Et maintenant je me tourne vers vous, Stéphane Charpier, pour l'interview. Merci beaucoup à nouveau d'être avec nous dans cet épisode de l'Happy Hour scientifique dédié à la mort. Et salut Cléo.
Salut. Stéphane Charpier, vous êtes professeur de neurosciences à Sorbonne Université et vous dirigez l'équipe excitabilité cellulaire et dynamique des réseaux neuronaux de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Vous avez publié en 2020 l'ouvrage « La science de la résurrection » paru aux éditions Flammarion.
Pour commencer, Stéphane Charpier, pourquoi est-ce que c'est important d'étudier le fonctionnement du cerveau au moment de la mort ?
Pour des tas de raisons. Déjà, parce que c'est important, parce que tous les scientifiques sont curieux et les physiologistes sont curieux des phénomènes physiologiques un peu particuliers, un peu extrêmes. Et celui-là est évidemment est éminemment important puisqu'il s'agit de déterminer, mais on va voir dans la discussion que c'est plutôt difficile, de déterminer cette frontière entre l'état vivant et l'état mort. Alors une frontière, c'est quand on regarde une carte, c'est un trait pointillé. On a le sentiment, quand on parle de frontière, que on a une ligne imaginaire qui permet de passer instantanément, dans le cadre de la vie et de la mort, de l'état vivant à l'état mort. Mais ça n'est pas le cas, justement. Donc, en fait, le but de ces recherches, c'est justement de comprendre quels sont les processus qui vont se mettre en place progressivement et qui vont nous faire passer de vie à trépas.
Très bien, effectivement, nous verrons que cette frontière entre la vie et la mort est plus que floue. Tout à l'heure, Alban nous a défini rapidement ce qu'était la mort cérébrale. Comment est-ce que vous, d'un point de vue plutôt neuroscientifique, est-ce que vous caractérisez, est-ce que vous définiriez cet état de mort cérébrale ?
Alors, l'état de mort cérébrale, il faut déjà comprendre, ce n'est pas une découverte. C'est que ça a été un choix. Ça a été un choix médical, un choix juridique et aussi presque un choix philosophique. Et c'est un choix qui trouve ses racines en France, en 1959. Alors là, on est à une période où on commence à développer les services de soins intensifs en France. Et notamment, on développe des machines qui nous servent à respirer de manière artificielle. Mmh. Et ça va tout changer. Et ça va changer même le cours de l'humanité. Non seulement parce que ça va sauver des personnes, un très grand nombre de personnes, bien entendu, mais ça a été aussi un outil qui a permis de découvrir un nouvel être humain qui est le patient en état de mort cérébrale. Mmh. Alors, comment ça s'est passé concrètement ? Donc, il y avait deux médecins français, c'est Pierre Mollaret et Maurice Goulon, qui donc ont décrit en 1959 un certain nombre de patients qui étaient dans un état qui n'avait jamais été décrit auparavant. Pourquoi ? Parce que ces patients, qui étaient donc sous respiration artificielle, étaient dans un coma extrêmement profond parce qu'il y avait des lésions cérébrales qui étaient manifestement irréversibles et qui les empêchaient définitivement d'être conscients. Mmh. Ces patients ne pouvaient pas respirer spontanément. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom.
Alban.
Comme vous l'avez dit, les réflexes issus du tronc cérébral avaient disparu. Mais grâce au système de respiration artificielle, le cœur de ces patients continuait de battre. Mmh. Un sang oxygéné circulait dans leur corps, ce qui permettait, et c'est là le paradoxe de la mort cérébrale, ce qui permettait d'oxygéner et de nourrir la quasi-totalité des organes du corps, sauf le cerveau. Mm-hmm. Donc on avait des patients, là je parle de patients, mais vous allez voir, ils vont devenir des morts. On avait donc des personnes dont la quasi-totalité du corps était fonctionnelle d'un mm-hmm. point de vue physiologique, seul le cerveau ne fonctionnait plus. Mm-hmm. Et là, Mollari et Goulon, ils ont été évidemment très troublés par ces patients qui n'avaient jamais été décrits auparavant. Et ils ont compris qu'il y aurait un prix à payer. Et le prix à payer, il a été non seulement de nature médicale, mais aussi de nature philosophique. Mmh. La question était, que faire de ces personnes ? Qui sont-elles ? Sont-elles encore des personnes au sens plein ? Mmh. Peut-on parler d'une personne ? On est nombreux ici dans cette assistance. Peut-on parler de quelqu'un qui n'a plus de cerveau fonctionnel et qui ne peut plus jamais être conscient comme étant une personne au sens plein ? Donc la question pragmatique pour les médecins, c'est que faire de ces personnes-là ? Doit-on arrêter la respiration artificielle et provoquer un arrêt définitif de toutes les fonctions physiologiques du corps ? Ou alors doit-on les considérer encore comme des personnes, c'est-à-dire quelqu'un qui a un cœur qui bat ? Comment peut-on, même aujourd'hui, la force symbolique du cœur est telle que comment peut-on considérer qu'une personne dont le cœur bat et qui respire, alors même si ce n'est pas spontanément, mais qui respire, comment peut-on imaginer, penser, concevoir que cette personne est morte ? Donc la mort cérébrale, c'est ça. Ça a été donc un choix qui a été déterminé quelques années plus tard par un comité de savants et de médecins américains à l'université d'Harvard et qui ont décidé de débaptiser le coma dépassé de Mollari et Goulon. Et ils ont dit, ben non, ça, c'est pas un coma, c'est la mort. D'accord. Et c'est la mort cérébrale, puisque c'est la mort uniquement du cerveau. Et là, c'est devenu une nouvelle mort. Mm-hmm. Il faut bien comprendre qu'il y a eu une sorte de changement de paradigme par rapport à la mort. Avant la mort, c'était la mort cardio-centrée. Le cœur s'arrête de battre, on arrête de respirer, on est mort. Aujourd'hui, on peut être mort avec un cœur qui bat. On appelle ça des cadavres au cœur battant. C'est tout à fait un peu étrange comme situation. C'est un peu même effrayant, mais on n'est pas loin d'Halloween. C'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle, sauf pour ceux qui sont dans un tel état, bien entendu. Donc, on a ces personnes. Alors, on ne sait plus comment les appeler. On va encore les appeler patients. Ce sont des personnes. Mais non, ce ne sont plus vraiment des personnes au sens plein. Mais ce sont des corps. Ce sont des corps dont le cœur bat, la quasi-totalité des organes fonctionnent, mais qui ne seront plus jamais conscients. Et ça, c'est une nouvelle définition de la mort par l'OMS. Qui est maintenant très bien caractérisé d'un point de vue légal et médical.
D'accord, c'était ma prochaine question. Et c'est, du coup, point de vue légal, c'est vraiment cet état-là qui, on peut dire que ça, c'est on est mort.
Alors, il faut bien comprendre qu'on peut être déclaré mort, et c'est ça ta question, enfin, on peut être déclaré mort avec un cœur qui bat, à condition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à condition que tous les signes cliniques de la mort cérébrale aient été corrects. Réalisé, ce qui n'a pas été le cas dans le cas de DJ dont vous avez parlé tout à l'heure, où là ça n'a pas été le cas. Mais oui, on peut être mort avec un cœur qui bat.
D'accord. Et du coup, plus concrètement, quel outil utilise-t-on pour déclarer quelqu'un en état de mort cérébrale ? Qu'est-ce qu'on fait comme mesure un peu plus précisément, un peu plus expérimentalement ?
Bon, alors je ne vais pas détailler tous les signes. D'abord, c'est un peu difficile à raconter. Bon, c'est un peu troublant. Mais enfin, grosso modo, il y a deux signes. Il y en a plutôt quatre. Le premier signe, c'est l'incapacité de respirer spontanément. Ça signifie qu'il y a une région du cerveau qui s'appelle le tronc cérébral, qui se trouve à la base de notre cerveau, dans la boîte crânienne. Et c'est une zone extrêmement importante qui contrôle la capacité de respirer spontanément, mais qui aussi contrôle les états de vigilance et les états de conscience. Cette structure-là, dans l'état de mort cérébrale, ne doit plus fonctionner. Donc ce que l'on fait, comme vous l'avez dit, on fait des tests qui permettent de contrôler la fonctionnalité des neurones qui se trouvent dans le tronc cérébral. Quand les tests montrent que ce n'est pas le cas, c'est déjà un premier indice. Ensuite, le patient ne doit pas respirer spontanément. Le patient doit avoir un électroencéphalogramme plat. Mais ça peut être trompeur, puisque c'était le cas effectivement du patient. Et nous, on a beaucoup travaillé dans le laboratoire sur des patients qui étaient dans des comas extrêmement profonds avec un électroencéphalogramme plat, mais qui n'étaient pas morts. Il ne faut pas faire cette confusion. J'insiste là-dessus. C'est pas parce qu'on a un électroencéphalogramme plat qu'on est mort. Il faut l'ensemble des critères. Donc, on ne peut pas respirer spontanément. Plus de réflexes du tronc cérébral. On a un électroencéphalogramme plat. Et on est dans un coma, c'est-à-dire on ne répond pas aux stimulations, il n'a pas d'ouverture spontanée des yeux, aucun moyen de communiquer, on est mort.
Très bien.
Mais comment on peut avoir un électroencéphalogramme plat sans être mort ?
Alors, il suffit tout ça. Alors, c'est une très bonne question. Et mais là, je m'adresse à quelqu'un que je connais et qui a fait des études, longues études en neurosciences. Donc, en fait, c'est relativement simple. Il suffit d'arrêter l'activité spontanée des neurones. Alors, il faut comprendre que ce sont des choses qui peuvent arriver de manière accidentelle. Si vous tombez dans une eau glacée, par exemple, et vous restez suffisamment longtemps, votre température interne va diminuer et ça va arrêter l'activité des synapses, ça va empêcher les neurones de déclencher ce qu'on appelle des potentiels d'action. Et quand on est dans une telle situation et qu'on met des électrodes sur le cuir chevelu d'une personne qui a vécu ce genre de situation dramatique, bah on voit que l'électroencéphalogramme est plat. Mmh. Mais ça, c'est ce qu'on voit en surface. Qu'est-ce qu'on voit en fait ? On voit que l'activité endogène a été supprimée. Ça peut aussi arriver avec certaines drogues. Des drogues qui sont qu'on appelle des dépressants du système nerveux, comme les barbituriques par exemple, si on en prend trop de barbituriques, enfin je ne dis pas d'en prendre, hein, je dis si on prend trop de barbituriques, on va aussi avoir, on va être dans le coma, on ne pourra pas respirer spontanément, on va avoir un électroencéphalogramme plat. Mm-hmm. Mais ce n'est pas pour autant que le cerveau est mort. Mm-hmm. Et ça, c'est ce qu'on a montré dans le laboratoire, c'est on peut être dans un tel état, on appelle ça un coma isoélectrique, isoélectrique parce que le tracé est plat justement, mais nous ce qu'on a montré sur des patients et aussi sur des modèles expérimentaux, c'est que si on enregistre les neurones, on voit que les neurones ont conservé leur excitabilité, on peut les stimuler directement, ils déclenchent des potentiels d'action. Et on a aussi montré sur les patients que de tels patients dans des comas extrêmement profonds, il suffit de les toucher, mais délicatement, pour déclencher ce qu'on appelle un potentiel évoqué dans le cortex cérébral, ce qui prouve que l'information sensorielle a transité donc de la périphérie passer dans le tronc cérébral dont on parlait tout à l'heure, qui est donc fonctionnel, donc ils ne sont pas morts, et qui est capable de provoquer ensuite une réponse dans le cerveau. Donc on peut avoir un électroencéphalogramme, c'est juste, bon, ce n'est pas très bon signe non plus, hein, je ne voudrais pas faire croire que tout va bien quand c'est le cas. Ça va très mal en général, et on a du mal à s'en remettre en général aussi. Mais ce n'est pas un signe tout seul de l'état de mort cérébrale. Il est important dans la mort cérébrale, mais il faut qu'il soit associé à d'autres signes cliniques dont on va parler. Non, ce n'est pas une fatalité.
Très bien.
On va peut-être aborder l'onde de la mort. Au moment de la mort, juste après la perte de conscience, des chercheurs ont montré qu'il y avait un sursaut de l'activité cérébrale qui a été baptisé Wave of Death, ou onde de la mort en français. Et qu'est-ce que c'est cette onde de la mort ?
Bon, enfin, si j'ai un tout petit peu de temps, j'aimerais raconter comment moi je l'ai découverte, cette onde de la mort. Parce que c'est pas moi, c'est pas nous qui avons découvert cette onde. Je vais raconter une histoire, hein. C'est un truc qui se passe dans les laboratoires des fois, c'est-à-dire on est dans un institut et puis j'étais convié pour aller suivre une conférence sur l'épilepsie. Parce que mon laboratoire travaille beaucoup sur l'épilepsie. Et pour être franc, cette conférence m'ennuyait plutôt. J'avais une perspective qui n'était pas... Bon, je me dis, tiens, je vais imprimer un papier vite fait et je vais le lire enfin, au lieu de m'embêter à écouter le conférencier. Je fais quelques recherches, puis pop, je tombe sur un article. Et je vois marqué The Wave of Death. Je dis, tiens, c'est marrant, c'est quoi ce truc-là ? Donc, j'imprime le truc et je pars. Et donc, je lis l'article intégralement pendant la conférence. Je remonte dans le laboratoire. Réunion de crise dans le labo. Je leur explique ce que je viens de lire. Et là, je vais expliquer ce que c'est. Et je dis, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on sache ce que c'est que ce truc. Très rapidement, ce sont des collègues néerlandais qui voulaient savoir, écoutez bien, si la décapitation était un moyen humain de sacrifier des animaux. Ça va ? Donc, l'idée était la suivante. Si c'est une technique humaine, entre guillemets, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, ça veut dire que quand on décapite un animal, on doit voir disparaître très vite les ondes électriques cérébrales de la conscience. C'était ça l'idée. Bon. Alors ils ont fait les manips, ils ont décapé, et en même temps qu'ils décapitaient des rongeurs, c'était des rats de laboratoire, ils avaient mis des électrodes à la surface du crâne. Ils décapitent les animaux, et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient qu'effectivement, mais ça, ce n'était pas non plus très étonnant, enfin, c'est pas un scoop à proprement parler. Donc ils voient que l'activité cérébrale va disparaître assez vite, quelques dizaines de secondes, une minute, bon, ça dépend enfin, de la manière dont on va arrêter la circulation intracrânienne, mais dans le cadre de la décapitation, ça va assez vite. Et puis, on a un tracé plat, comme je racontais tout à l'heure. Et là, ils ont eu un coup de génie, c'est de continuer à enregistrer. Et donc, le tracé est plat, et là, paf, ils voient apparaître une onde. Une onde très, très grande. Et ils la voient apparaître à chaque fois qu'ils décapitent des animaux. Donc, ils ont conclu un peu rapidement, parce que nous, on a prouvé que c'était faux, que cette onde était une sorte de marqueur physiologique en temps réel qui permettait de dire, ah, là, OK, on a coupé la tête de l'animal, on voit l'activité cérébrale a totalement disparu. Et on voit l'onde. Et cette onde est le marqueur que le cerveau est en train de mourir. Est en train de mourir de manière donc définitive, puisque la mort est par nature définitive. Nous, on était intrigués par cette onde parce qu'on avait même un doute sur le fait qu'elle existe, tu vois, si tu veux savoir. Donc, on s'est dit, on va essayer de comprendre d'où elle vient. C'est des questions scientifiques de base, tu vois. Donc, d'où elle vient. Et deuxième question, est-ce que c'est vraiment un marqueur d'une mort irréversible? Donc nous, on a mis au point une préparation dans le laboratoire qui permet un plan B, quoi, c'est-à-dire de réanimer les animaux, parce que quand on décapite un rat, on ne va pas lui recoller la tête, on est d'accord, je pense.
Pas pratique.
C'est très difficile à faire, en tous les cas, probablement. Donc nous, on s'est dit, on va faire autrement. En fait, on va faire comme on fait avec les patients. Mm-hmm. On va prendre comme un patient, on va essayer de mimer, tu vois, de ce qui se passe avec un patient qui fait un arrêt cardio-respiratoire. Mm-hmm. Donc les animaux, on les a enregistrés avant, et puis après, une anoxie cérébrale. C'est-à-dire le fait d'arrêter
privation d'oxygène.
L'oxygénation du cerveau par le sang. Donc on fait ça, on a retrouvé cette onde de la mort, effectivement, qui apparaît avec un délai un peu plus long, mais en même temps, est-ce que vous n'avez pas fait, c'est un peu notre spécialité du laboratoire, en même temps qu'on enregistre l'électroencéphalogramme, on avait inséré des micro-électrodes très fines en verre à l'intérieur des neurones qui se trouvent dans le cortex cérébral. Mmh. Et l'idée, c'était la suivante, on voit l'onde, mais voir ce qui se passe dans les neurones permet d'expliquer l'origine de l'onde. Mmh. D'accord ? Parce que nous, on était parti du principe que ce n'est pas une onde, ce n'est pas un truc surnaturel, ce n'est pas les 21 grammes de la mort qui disparaissent. Nous, on pensait que c'était un phénomène neurophysiologique. Et effectivement, ça l'est. Donc, on a décrit ce phénomène. On appelle, c'est un peu technique, une dépolarisation anoxique. Ça veut dire quand les neurones sont privés d'oxygène, eh bien, ils vont perdre leur capacité à maintenir les gradients ioniques à l'intérieur et à l'extérieur des neurones, et ça veut dire que les ions vont diffuser à travers le cerveau, et quand des ions diffusent dans un milieu qui a une certaine résistivité électrique, ça crée un potentiel électrique qui est l'onde de la mort. Nous, ce qu'on a pu faire, c'est réanimer, et si on réanime, on voit apparaître, c'était la question suivante peut-être, je vais te trouver, on voit apparaître une autre onde.
Donc de la réanimation.
Et voilà.
Et je vous propose qu'on en parle. Voilà. Je vous propose qu'on en
donc,
parle juste
donc,
après.
Juste pour dire un mot. Donc ça prouve que l'onde de la mort n'est pas l'onde de la mort. On l'a débaptisé avec un nom beaucoup moins sexy, parce que l'onde de la mort, c'est sympa, mais on l'a appelé l'onde de la dépolarisation adoxique. C'est moins drôle.
Ça claque moins.
Ça se vend moins bien.
C'est moins rapide.
Mais voilà.
Ça claque un peu plus.
Mais c'est quand même plus vrai.
Bah oui.
On pourra en reparler un petit peu plus en détail après la pause musicale. On s'écoute tout de suite Death King de Fontaines D.C.
I caved in, my promise was clattered. Amazing stars from the drink. I made a promise and I kill it. Shit, 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 battered. A whole life meretricious. You shattered. Amazing stars from the dream. I made a promise I will kill it. Shit, 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 battered.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Nous De retour après cette pause musicale, on vient de s'écouter Death King de Fontaines D.C. Avant la pause, nous étions avec Stéphane Charpier, professeur de neurosciences à Sorbonne Université, et nous parlions de cette fameuse onde de la mort. Et je laisse la main à Cléo pour la suite de l'interview.
Après avoir parlé de l'onde de la mort, on va plutôt parler de l'onde de la réanimation. En 2019, vous avez publié des résultats montrant qu'en réoxygénant le cerveau après cette onde de la mort, une certaine onde de la réanimation apparaissait. En fait, qu'est-ce que c'est et comment ça a été caractérisé expérimentalement?
Alors en fait, il suffisait de continuer à enregistrer. Donc en fait, une fois qu'on avait vu cette onde de la mort, qui avait donc été déjà vue par des collègues, mais nous, on avait en même temps, et c'est là où ça devient intéressant l'onde de la réanimation, parce qu'en même temps qu'on enregistrait l'électroencéphalogramme, on enregistrait ce qui s'est passé dans les neurones. Et puis on s'est rendu compte qu'une fois qu'on voyait l'onde de la mort et qu'on remettait de l'oxygène dans le système, on voyait dans un certain nombre de cas, une proportion qui était plutôt élevée de cas, on voyait en fait apparaître une petite onde après. Et ça, on ne s'y attendait vraiment pas. Ça, c'était vraiment un truc dans le labo super. C'est-à-dire, on était là, on était waouh, c'était vraiment. On n'a pas bu du champagne parce que j'aime pas le champagne, mais on était vraiment contents, quoi. On était vraiment contents de voir ça. Donc, on voit cette onde. Et quand on voit cette onde, et là où ça devient vraiment très intéressant, c'est quand on voit cette onde, que l'on voit dans le neurone en même temps, et que le neurone récupère, en fait, sa polarité électrique physiologique. C'est-à-dire, en même temps qu'on la voit, on voit que le neurone, en fait, il récupère progressivement. Il va se, on appelle ça se repolariser. Mm-hmm. Bon, c'est un peu technique, mais c'est pas très compliqué. C'est-à-dire qu'il récupère en fait ses gradients électriques normaux de part et d'autre de la membrane. Et puis ce que l'on voit encore, c'est que les synapses vont recommencer à fonctionner, les neurones vont recommencer à déclencher des potentiels d'action. Donc le neurone reprend vie, mais il n'a jamais été mort, attention. Et on voit aussi dans l'électroencéphalogramme que l'électroencéphalogramme récupère l'activité qu'il avait avant. Et en fait, cette onde de la réanimation, c'est l'onde jumelle de l'onde de la mort. L'onde de la mort, c'est l'onde mortifère. Et ouais. Puis l'autre, c'est celle qui permet au système de revenir. Parce que ce qu'elle montre, en fait, c'est elle montre l'effet inverse, tout simplement. Elle montre les changements de polarité électrique des neurones, mais dans l'autre sens. D'accord. Et c'est ça que montre cette onde de la réanimation. Donc, on était très contents de la trouver, cette onde de la réanimation. L'onde de la mort, elle a été déjà décrite chez des patients, chez des humains. L'onde de la réanimation, pas encore, mais parce que les situations qui permettraient de l'enregistrer ne sont pas encore possibles ou autorisées, ni éthiquement, ni de manière pratique.
Et puis, c'est assez récent aussi, la découverte. Je crois que c'est en 2019, si je ne dis pas de bêtises.
C'est en 2020. 2020. Et on continue à travailler dessus. Et en fait, ce que l'on voit, et ça, c'est important peut-être à dire, c'est que c'est un marqueur, donc cette onde de la réanimation, un marqueur de récupération, mais un marqueur dans 100% des cas.
D'accord.
Donc là, il y a des scientifiques ici, ils savent que 100% des cas, pour un marqueur biologique, un marqueur physiologique, ça, c'est tout à fait exceptionnel. Donc, on est très contents. C'est extrêmement fiable. Quand on la voit apparaître, même si pendant un moment donné, on ne voit rien de nouveau qui se passe, on sait que le cerveau va repartir.
D'accord.
Ça, dans tous
c'est
les
garanti,
cas.
D'accord.
C'est garanti à 100%.
Mais on la voit réapparaître combien de temps après l'onde de la mort? C'est très rapide, non?
En fait, elle apparaît avec un certain délai après la réanimation. Après qu'on ait remis la ventilation, donc ça peut être un certain temps. Quelques secondes, quelques dizaines de secondes, voilà, ce n'est pas des périodes très longues. Mais la totalité du processus va prendre plusieurs minutes. Entre le moment où on va arrêter la respiration et le moment où on va commencer à voir une récupération professionnelle. Là, ça prend plusieurs minutes. C'est beaucoup plus long.
Et du coup, vous avez dit qu'au moment de l'onde de réanimation, les neurones se repolarisaient, donc il y avait une sorte de remise en route des neurones, si je puis dire.
C'est ça.
Est-ce que cette onde de réanimation, par la suite, si on va dans une échelle de temps un petit peu plus longue, est-ce que c'est un retour à la vie de l'individu aussi en tant que tel? Est-ce que ça veut dire que l'individu ne va pas mourir et revient à la vie, tout simplement?
Alors là, je vais donner mon avis sur quelque chose qui est la limite de la métaphysique, si tu permets. On ne revient pas à la vie.
Ouais.
En fait, la mort, d'un point de vue ontologique, est un état, c'est une sorte d'anti-état physiologique, mais il est par nature irréversible. Bon, alors c'est mon point de vue, c'est comme ça. Donc, quand on voit apparaître l'onde de la réanimation, parce qu'en fait, cette onde de la réanimation, pour répondre à ta question, c'est aussi marrant parce qu'en anglais, c'est « the wave of resuscitation
».
Okay. Donc, ils ont des journalistes français qui ne connaissent pas très bien l'anglais. Eux, ils ont traduit par l'onde de la résurrection. Pas de résurrection, c'est désolé, vrai, mais par contre, une réanimation à partir d'une situation physiologique critique, mais qui ne peut pas être la mort.
D'accord.
Et c'est là aussi la confusion avec DJ qui a été déclaré mort alors qu'il n'était pas, c'est qu'ils se sont trompés. Mm-hmm. Donc quand on dit que DJ, enfin je me permets de revenir sur l'histoire de DJ, quand on a dit qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie, ben non, c'est pas vrai. Il n'était pas mort. C'est une erreur de diagnostic. Donc pour répondre à ta question, ça n'est pas un retour à la vie, c'est un retour, tu vois, d'une activité qui avait disparu dans le cerveau et que si on n'était pas intervenu, il aurait conduit du coup définitivement à la mort.
Et du coup, si je formule la question un petit peu autrement, est-ce que c'est un retour de l'activité cérébrale comme elle l'était avant l'onde de la mort ?
On n'en sait rien.
Ok.
Ce que l'on voit pour l'instant, ça c'est une excellente question sur laquelle on bute encore. Parce que nous, on est dans une situation où notre préparation de recherche nous interdit de tester ce que tu viens de dire. Pour l'instant. Mais on est en train d'essayer de régler ce problème.
Okay.
Ce que l'on sait quand même, et ce n'est pas anodin quand même, c'est que si on fouille dans l'activité électrique que l'on enregistre avec l'électroencéphalogramme, ce que l'on voit au bout d'un certain temps, ça peut durer une heure, deux heures, etc., on voit qu'on a une activité qui récupère intégralement. Une activité cérébrale qui récupère intégralement, pour moi, qui suis de nature très optimiste, n'est-ce pas, je considère que le cerveau va bien et qu'on n'est peut-être pas dans une situation avec des séquelles, comme c'est très fréquent chez les êtres humains, les séquelles après un arrêt cardio-respiratoire prolongé. Peut-être que cette onde de la réanimation, peut-être, je ne vais pas m'avancer trop non plus, elle est peut-être aussi un marqueur d'une récupération correcte du fonctionnement cérébral.
Positif.
Je me suis avancé un peu.
Ça fait plaisir.
C'est l'ambiance qui m'a envie de m'avancer, de
réaliser.
Tous vos sourires, etc. Ça me dit, je suis content.
On refera une émission quand il y aura ces réponses-là à ces questions.
Très bonne idée. Avec plaisir.
Cette frontière floue entre la mort et la vie, elle soulève la question des expériences de mort imminente, parfois perçues comme la fameuse lumière au bout du tunnel, voire des expériences paranormales, où l'âme quitterait le corps un instant avant de revenir. Vous, vous êtes beaucoup intéressé aux expériences de mort imminente. Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a particulièrement marqué ?
Toutes les histoires d'expériences de mort imminente sont tout à fait extraordinaires. Tous les expérienceurs, c'est comme ça qu'on les appelle, ont toujours des choses extraordinaires à raconter. J'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes qui étaient venues assister à mes conférences sur le sujet qu'on est en train de traiter là, et qui après venaient me voir et qui me remerciaient, puis qui venaient me raconter, j'ai fait un arrêt cardio-respiratoire, ou j'ai eu une opération qui a mal tourné, j'ai fait une expérience, puis me raconter leur expérience. Et c'est toujours un événement tout à fait extraordinaire pour une personne. Bon, ça n'est pas aussi fréquent que ça. Alors, selon les études, ça varie entre 5 et 20% de personnes qui ont été dans des situations de proximité de la mort, mais qui ne sont jamais morts. Ça, je redis ça encore une fois, parce que les expérienceurs ne sont pas des personnes qui sont revenues de la mort. Ils ont été très proches, par contre. Ils ont été très proches. Et alors, comme tu l'as dit, il y a des choses qui reviennent assez fréquemment. Le tunnel de lumière, ce n'est pas vraiment un tunnel, mais enfin, il peut y avoir une lumière vive, une lumière intense. Il peut aussi quelque chose avoir de sombre aussi. Il peut y avoir aussi des expériences extracorporelles. Alors là, on rentre un peu dans quelque chose qui va un peu nous faire penser à quelque chose de paranormal. Mais ça ne l'est pas non plus, vous allez voir. Donc en fait, on a le sentiment on a une sensation extériorisée de la représentation de son corps. Là, pour l'instant, ce qu'on a tous ici, on a une représentation intériorisé de ce que l'on voit à l'extérieur, et on a une représentation interne de notre corps. Dans le cas des expériences de ce type d'expérience, le patient ou l'expérienceur va se voir lui-même de l'extérieur et de manière déformée. Bon. Et puis aussi, il y a aussi une qualité de ces expériences qui est plutôt une qualité positive. Positive, mais plutôt de type hallucinatoire. Bon. Tout ça en fait des expériences tout à fait extraordinaires, mais c'est rarement un mauvais souvenir. Ce qui est difficile pour les patients qui racontent les expériences de mort imminente, c'est plutôt la réaction des personnes à qui ils racontent. Parce que très souvent, et ça a été le cas pendant très longtemps, ça l'est plus heureusement, enfin ça l'est rarement. Avant, on se foutait d'eux. On les croyait pour des zinzins qui racontaient des sottises, etc. Des fariboles surnaturelles. Ça n'est pas le cas. Plus personne ne remet en cause la réalité des expériences de mort imminente. Par contre, certains pensent, comme tu l'as dit, que c'est un instant particulier, tout à fait extraordinaire, durant lequel l'âme quitte le corps, se balade et revient, etc. Il y a même des grands médecins, des grands chercheurs qui disent ça. Dans le Lancet, que vous connaissez peut-être, qui est un journal médical extrêmement réputé, je ne vais pas citer le collègue parce que je n'ai pas envie. Enfin, qui écrit ça dans le Lancet. Enfin,
en brouille à la villa.
Il faut imaginer le truc. Il écrit ça et dit L'âme, l'esprit quitte le corps, se promène dans la pièce à côté, puis il revient. Alors, il donne des cas un peu extraordinaires de patients qui laisseraient supposer que ça. Bon, tout ça, ce sont des fariboles. Ce que l'on pense aujourd'hui, et d'abord, on sait que certaines expériences de mort imminente peuvent être reproduites chez des personnes qui sont en bonne santé. Par exemple, prenons un exemple qui est celui des expériences extracorporelles. Si on fait des stimulations électriques dans une certaine région du cerveau qu'on appelle le gyrus angulaire, qui se trouve à la frontière entre différentes zones corticales et qu'on stimule là, c'est une zone qui permet d'intégrer plein d'informations différentes, sensorielles. Si on stimule là, on va brouiller en fait les signaux cérébraux qui permettent d'avoir cette représentation cohérente que l'on a et unifiée. Okay. Là, en ce moment, on n'est pas en train de se représenter en morceaux séparés. Ouais. D'accord.
Dans notre corps, on est
d'accord.
Mais
si on fait ça,
je me pose la question, mais...
si on fait ça, bah, si on prend certaines drogues, ça peut le faire. Donc si on stimule dans cette région ça, c'est plutôt les hallucinogènes, les psychédéliques hallucinogènes qui vont faire ça. Si on stimule là, on va un peu désorganiser ce système là. Donc on peut avoir ces sensations justement de décorporation, par exemple, on peut se voir de manière déformée, etc. Ouais. Donc, vraisemblablement, les expériences de mort imminente sont dues au fait qu'au moment de l'anoxie, au moment provoqué par l'arrêt cardio-respiratoire, ça va provoquer dans certaines régions du cerveau qui sont sensibles à cette anoxie des dysfonctionnements d'activité qui vont faire un peu le même effet que ces stimulations électriques. Tu vois. Donc, ça va brouiller les signaux et ça va produire une activité mentale anormale. Ça, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas nouveau. Dans le cas de l'épilepsie, certaines épilepsies du lobe temporal vont produire des expériences psychiques tout à fait extraordinaires. Mais ce n'est pas un truc surnaturel. Ouais. Et les patients ne sont pas en train de devenir fous. C'est juste le fait que les réseaux de neurones qui étaient censés faire un truc dans une condition normale, ils font une chose dans une condition pathologique. C'est le cas des expériences de mort imminente.
Rien de paranormal dans tout ça, donc.
Non, rien de paranormal.
Tu peux l'expliquer de manière scientifique.
Merci beaucoup. Mais je pense, oui, je pense.
Alban, je crois qu'il y avait une question que tu voulais poser à Stéphane Charpier.
Oula, oui.
T'as un peu de temps.
Je t'en prie.
Oui, alors bon, il faut revenir un peu en arrière, hein, parce que moi, c'était par rapport au. Pas exactement. Au, comment vous appelez ça, le patient au cœur
cadavre, cœur battant.
Exactement. Bah, en fait, je me posais juste la question, donc du coup, quand le cerveau se met à l'arrêt, le cœur peut continuer de battre parce que pour moi, forcément...
En fait, on le sait depuis très longtemps.
Ouais.
Bon, y a des expériences qui se font plus, mais qu'on faisait en travaux pratiques de physiologie. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous êtes peut-être trop jeune.
De physiologie.
Là, je fais un peu le...
Moi, j'en ai fait en école d'Angers.
Bon, alors, si tu prends un cœur de grenouille, par exemple, et que tu l'enlèves, et que tu le mets dans un liquide qui contient des nutriments, du sel, etc., bah, le cœur, il continue de battre. Yeah. Donc effectivement, si ton cerveau ne fonctionne plus, et même ton tronc cérébral, s'il ne fonctionne plus, ton cœur bat. Okay. Par contre, tu ne vas pas réguler ton cœur. Et ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais les patients en état de mort ont un cœur qui bat très régulièrement. Parce qu'ils ont plus de contrôle qu'il y a par le tronc cérébral. Quand on est ému, quand on passe à la radio, par exemple, en direct, vous savez ce que c'est, on est un peu ému, le cœur bat plus vite. Hein. Oui. Si vous étiez en état de mort cérébrale, il ne battrait pas plus vite.
Ok,
okay.
Très bien. Okay.
C'est bizarre,
merci beaucoup.
Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que oui, on peut. Donc il n'y a pas. De...
Ok.
Mieux vaut faire une émission radio qu'un arrêt de mort cérébrale.
Clairement.
C'est quand même plus agréable.
Je pense qu'il n'y a pas de doute.
Étonnant. Étonnant.
Et on va devoir s'arrêter là pour cette interview. Merci infiniment, Stéphane Charpier, d'avoir été avec
nous.
Merci à vous.
C'était très agréable.
Sur Radio Campus Paris, c'était un plaisir.
Merci beaucoup.
Et on s'écoute tout de suite Dead to Me de Kali Uchis.
You're dead to me.
Scientifique sur Radio Campus Paris.
Et on est de retour en direct pour la suite de l'Happy Hour Scientifique. On vient de s'écouter Dead to Me de Kali Uchis. De retour donc sur le 93.9 FM et tout de suite on retrouve Jocelyn qui nous a préparé un petit caps ou pas caps. Salut Jocelyn.
Eh bien salut, bonjour à tous. Et c'est parti donc pour le caps ou pas caps. Au cas où vous ne connaissez pas, le caps ou pas caps, c'est des mini-jeux.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Pardon. Et donc, le Caps ou pas Caps, mini-jeu, des questions, tout le monde a le droit de participer. Et aujourd'hui, on va pas parler de neurosciences dans le Caps ou pas Caps, on va parler de gens qui ont failli mourir. Et c'est fun. Et oui, parce que pour faire une expérience de mort imminente, bah, il faut pas mourir en fait. Sinon, c'est juste une expérience de mort. Donc, on va faire une espèce d'anti-Darwin Award. Je vais vous poser des questions et on va parler de gens qui ont survécu à des trucs où on n'est pas censé survivre.
Ok.
Alors d'abord, question 1. Est-ce que vous vous souvenez de l'avion qu'il y avait à Mairie sur l'Hudson à Manhattan? Ouais. Il y a eu un film, Sully, avec Tom Hanks.
Chips. Jocelyn.
Merci. Et réalisé par Clint Eastwood. Enfin voilà. Et vous vous souvenez peut-être aussi du premier attentat du World Trade Center en 93. Ouais. Donc 8 ans avant les tours jumelles, il y a eu un premier attentat.
Ouais.
Et bien si je vous disais qu'il y avait un lien entre cet amérissage d'urgence sur l'Hudson et le premier attentat du World Trade Center. À votre avis, qu'est-ce que c'est le lien entre les deux?
C'était des avions.
Un avion dans les deux cas, ouais.
Oui, mais c'est pas le lien que je cherche.
C'est un rapport à l'avion?
C'est un rapport à la mort, plutôt, la quasi-mort.
Il y a le même nombre de morts?
Non. Non, parce qu'il n'y a pas de mort, l'Hudson.
Ah oui, bah oui.
C'était pas le même pilote d'avion, clairement pas.
Non, mais il y a quelque chose en commun, voilà, entre les deux.
Le même copilote, le même hôtesse de l'air, Stewart.
Ouais, alors là, en fait, je suis coincé parce que vous êtes trop précis en fait par rapport à la question que j'avais prévue. Mais en gros, il y a quelqu'un qui a vécu les deux événements.
Ok.
Voilà, donc c'est une
dans
femme.
Dans les passagers.
Elle était.
Loin.
Ah, ouais, c'est ça. En fait.
Très loin,
c'est pour ça que je me suis dit en fait.
Pas loin, je vais rester encore. Hein,
donc il y a une personne en fait qui était dans l'avion, qui est à Mairie et qui était au World Trade Center au moment de l'attentat. Elle s'appelle Marianne Bruce. Elle est américaine. Elle est connue aux États-Unis pour avoir survécu à tout un tas de trucs et de catastrophes. Mm-hmm. Donc notamment l'attentat, le premier attentat du World Trade Center, l'amérissage de l'Hudson en 2009. Notons qu'elle a aussi connu d'autres catastrophes comme le séisme de Los Angeles en 94. Ou la tempête Gloria en 85 qu'elle a traversée en avion.
Pas mal.
Voilà.
Beau pédigré.
Exactement. Donc ça dit, elle a fait un livre pour gagner des sous. Après tout, pourquoi pas.
Je rentabilise sur ces expériences de merde.
Alors, deuxième question. Je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Roy Sullivan. Il est devenu connu dans les années 70-80 parce qu'il a battu un record. Il est l'homme qui a été le plus souvent frappé par la foudre sans mourir. Okay. Du coup. Alors à votre avis, combien de fois il a été frappé par la foudre?
10.
12.
Bon, 100.
plus. Ouais.
Non, plus. Beaucoup moins.
Non, plus ah. Que ça. Ah oui,
c'est,
non, d'accord.
C'est moins impressionnant tout d'un coup.
4, 5, 4,
un peu plus.
7, 7, ouais. Sept. C'est voilà, pas mal. C'est, ah, c'est pas mal. Je suis 7 fois
moi
la foot. C'est pas
j'ai
mal.
J'ai adoré ce jeu. Hein. Et toi, Nathan, combien de fois par la foot?
Oh, une douzaine. Comme tout le monde.
Alors, il faut préciser que Roy Sullivan, il était garde forestier dans une région particulièrement orageuse en Alaska. Ça augmente les risques. Mais n'empêche, il a quand même joué de malchance, le pauvre bougre. Il a, parmi les accidents, on peut relever par exemple la fois où il était dans son camion, lorsqu'un éclair a frappé un arbre au bord de la route, a traversé la cabine du camion d'une fenêtre à l'autre parce qu'elle était ouverte, et lui a brûlé les sourcils. La fois où il était dans une tour d'observation en forêt, tour d'observation des incendies, surveillance des incendies, ce qui est les gardes forestiers, ouais. Je rappelle, et où un éclair a frappé la tour, a mis le feu, et pendant qu'il s'enfuyait pour fuir l'incendie, il a été frappé par un deuxième éclair. Oh, donc c'est vraiment pas de chance pour lui. Ou encore la fois où il pêchait sereinement dans un lac, lorsque soudain, paf, un orage lui frappe la tête, met le feu à ses cheveux. Et alors qu'il s'enfuyait après avoir traversé le lac pour éteindre le feu sur ses cheveux, il s'est fait agresser par un ours qui voulait lui voler son poisson. Enfin bon, le gars a développé une petite paranoïa, il a dit, vis-à-vis des orages, on le comprend.
Est-ce, enfin, qu'il, voilà. Attends, est-ce qu'il se balade avec une antenne pour être aussi oui, malchanceux
bah,
avec les orages? C'est dingue.
En plus, j'ai vu une photo, il n'a pas beaucoup de cheveux. Enfin, il a, ça ne devrait c'est, pas attirer ouais. Tant que ça la foudre, quoi. Mais bon.
Il faudrait que je lui pose des électrodes sur le crâne pour
oui.
Voir.
Ah, on a peut-être des certaines zones particulières, ouais, on l'a vu.
Il a écrit un livre aussi, celui-là, ou non?
Non, non, il n'a pas été assez malin, malheureusement. Ouais, il n'est pas assez connu, je ne sais pas.
Il n'a pas suivi le filon.
Peut-être personne n'a voulu éditer. En 58, je vais vous parler de deux personnes, un père et son fils, qui étaient en train de pêcher dans la baie de Lituya, en Alaska, lorsque soudain, un bruit se fait entendre, un tremblement de terre d'une amplitude de 8,3 sur l'échelle de Richter, donc un truc assez balèze frappe. Mais le pire est à venir, car un glissement de terrain dévale des montagnes, plonge dans l'eau et crée l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand tsunami jamais observé par un être humain ayant survécu. Alors à votre avis, combien, quelle taille faisait la vague de ce tsunami? Donc là, je vous propose 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres ou 60 mètres.
Ah, j'ai envie de dire le plus, du coup.
50 mètres.
60 mètres.
Du coup, dans l'excès, apparemment.
Eh bah ouais, la vague faisait 60 mètres. Elle a traversé la baie de Lituya, donc, jusqu'à atteindre la montagne de l'autre côté. Et accrochez-vous bien, elle était si puissante que quand elle a atteint la montagne de l'autre côté, elle a remonté la pente jusqu'à 520 mètres d'altitude. Mais 525 mètres d'altitude.
Ok.
Donc, en quelle année c'est en quelle année?
C'était en 58.
58.
Donc on a trouvé en fait des traces de la vague qui a arraché des arbres jusqu'à 60 mètres d'altitude le long de la baie et qui a remonté la montagne jusqu'à plus de 500 mètres en face. Donc les deux témoins ont survécu, le père et le fils qui pêchaient. Ils ont aperçu la montagne à 8 km de distance, enfin la montagne pardon, la vague. Et ils ont enclenché leur bateau et ils ont foncé comme ça vers la vague, en quelque sorte, surfé dessus, ce qui leur a permis de survivre. En recoupant les témoignages, les informations sur place, on a vu qu'à ce moment-là, la vague elle était à peu près à 50 mètres de haut. Ouais. Donc ils ont surfé une vague de 50 mètres avec leur petit bateau. Et elle les a d'ailleurs emportés par-dessus une île. Donc apparemment, ils racontent que quand ils étaient au-dessus de l'île, ils flottaient au-dessus des arbres qu'ils voyaient dans l'eau en dessous.
Alors pardon, mais c'est une invention totale. Ces gens n'ont jamais vécu ça.
Alors, voir les sources. Parce que
c'est un dessin animé.
Alors, les sources, c'était un docu quand j'étais petit.
Et 58, t'es très tout petit.
Oui. Je ne fais pas mon âge. Souvent. Mais par contre, alors, ce qui est vrai, c'est qu'on savait qu'il y avait des bateaux, ce qu'on en a retrouvé. Enfin, on a retrouvé un bateau sur deux qui était dans la baie à ce moment-là, et on les a retrouvés dans la montagne. Et on a quand même des arbres et de la végétation, et même le sol, c'est la terre qui a arraché jusqu'à la roche. Le long de la baie jusqu'à 60 mètres. Donc il y a quand même la trace. Ou alors ils sont vachement motivés pour arracher tous les arbres et le sol sur des kilomètres.
Juste pour une petite histoire, ouais. Une petite anecdote à raconter.
Pour faire croire un truc où il n'y avait personne.
Merci beaucoup Jocelyn pour ce Caps ou pas Caps. Bah, maintenant, je vais laisser la parole à Nathan qui a une petite chronique qui va nous parler de nécromancie aujourd'hui.
Exactement.
Salut
Nathan. Salut,
comment ça va?
Ça va super. Alors, il y a beaucoup de mystères qui englobent ce qu'il y a après la mort. On en a un petit peu parlé. Les EMI renforcent ces légendes, notamment avec toutes ces histoires de personnes qui ont esquivé la mort de justesse, racontant leurs expériences de dissociation corporelle, la lumière intense, les rencontres avec les proches disparus, ou bien ce sentiment de paix intense et d'amour qui est souvent décrit par les rescapés de la faim. Comme on a déjà pas mal abordé avant toutes ces expériences vécues... comme on a déjà pas mal raconté juste avant, toutes ces expériences vécues ont une explication très rationnel, lié au fonctionnement de notre cerveau qui a tendance à déconner sévère à l'approche de la mort. Mais malgré les avances de la recherche en neurologie, la mort continue de fasciner, quand elle n'est pas source de crise de panique à 3h du mat. Le concept d'exploration de la vie après la mort a été pas mal abordé en fiction, par exemple dans le roman de Bernard Werber, Les Thanatonautes, une équipe de chercheurs décide d'explorer ce qu'il se passe après la mort en tuant des gens, volontaires, mais de manière contrôlée pour les faire revenir avant qu'ils franchissent le point de non-retour. Le but étant qu'ils décrivent leurs aventures de court passage dans l'au-delà. Malheureusement, ce genre d'expérience n'est possible qu'en fiction, et surtout très illégale et dangereuse. Mais pas de panique, si vous tentez le coup et que vous décédez malencontreusement durant le process, vous pouvez toujours compter sur les nécromanciens qui vous permettront de continuer à communiquer avec vos potes vivants.
Mais c'est quoi la nécromancie, Nathan ?
Alors, la nécromancie, c'est à l'origine une pratique visant à interroger les personnes décédées dans un objectif de divination. En gros, on fait parler les morts pour prédire l'avenir. Les charlatans médiums prétendent pouvoir se connecter à une autre dimension, peuplée de nombreuses entités qui veulent faire causette avec les êtres humains, parce que l'au-delà, c'est certainement chiant à mourir, il faut bien qu'ils s'occupent, et ces esprits seraient capables d'apporter des réponses sur le futur ou à des questionnements divers, comme « Quel temps fera-t-il à Ajaccio demain ? Est-ce que mon ongle incarné va s'arranger ? Ou bien, est-ce que tout est foutu, du coup, avec Trump à nouveau à la tête de la première puissance mondiale ? S'il vous plaît, répondez les esprits avant que je fasse une crise d'angoisse. » Bref, très sympa les esprits, ils sont là quand on en a besoin. Comme vous vous en doutez, la nécromancie, ce n'est pas nouveau, ça fait un petit moment qu'on fait parler les morts. Dans l'Antiquité déjà, on retrouve des traces de ce concept, à la fois dans des vraies pratiques et dans la mythologie. Au Moyen-Âge, par contre, ces pratiques diminuent en Europe, car l'Église catholique condamne fermement la nécromancie, la jugeant démoniaque. La divination par les morts est décrite comme le fait d'un homme décidant d'abandonner Dieu. Les mots sont très durs. Au fil des siècles, la nécromancie évolue et commence à englober plus que simplement l'art de la divination. On commence à l'associer à la magie noire, aux sacrifices rituels et à la réanimation des cadavres. Aujourd'hui, la nécromancie continue de fasciner. L'intérêt a notamment été ravivé par des mouvements comme le spiritisme. Vous avez maintenant une panoplie de rituels que vous pouvez faire à la maison avec les enfants pour convoquer les esprits. L'écriture automatique, la transe, les tables tournantes, l'incorporation, le tarot et la plus connue, la planche Ouija. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est une planche avec des lettres, des chiffres et des mots comme oui, non et au revoir inscrits dessus. On se place autour de la planche à plusieurs et on pose son doigt sur une goutte ou un verre posé sur cette planche. Ensuite, il suffit de demander à un esprit de venir avec le fameux « esprit, es-tu là ?» et ensuite de lui demander d'écrire en faisant bouger l'objet choisi pour indiquer les lettres. Est-ce que vous avez déjà testé la Ouija autour de la table ?
Oui.
Non, moi, ça me terrifie, je ne ferai jamais ça.
Encore, mais en fait, on pourrait le faire ici, non ?
C'est vrai, on va faire en direct une planche de Ouija. J'ai testé.
Moi, ça avait fonctionné quand je l'avais.
Ça a fonctionné toi aussi ? Ok, c'est super. Et justement,
enfin, ça dépend de ce qu'on en compare.
Raconte.
Et ben, on était avec des amis dans une maison qui fait peur, et donc on a essayé de faire le Ouija. On était à 10. Et
à 10 sur le. Comme 10. Ça, hein.
Bah, vous en fait, on s'était mis assez proches. Ouais. Et on était peut-être pas 10, on était un peu moins que ça. Et en fait, on l'a fait plusieurs fois, et le verre a fini par bouger. Donc après, je vous laisse libre d'interprétation.
Il y a un petit rigolo dans l'équipe qui.
Et moi, non, c'est juré, de ne pas mentir.
L'idée que quelqu'un ait bougé le doigt ne vous est pas venu.
Et bien justement, je vais parler de l'explication scientifique de comment cette goutte ou ce verre bouge sur la planche. Personnellement, j'ai testé avec des potes quand j'avais 16-17 ans, une soirée d'ado bien flinguée, mais ça avait marché aussi. Un défunt nous a raconté sa life en faisant bouger le verre sur la planche, c'était énorme, très flippant aussi. Mais en réalité, il y a bien une explication scientifique et très terre-à-terre de pourquoi la goutte écrit des trucs dans une séance Ouija. En fait, ce qui fait bouger sur la planche, c'est en réalité un réflexe inconscient des participants, le réflexe idéomoteur. C'est un mouvement musculaire involontaire qui fait bouger la goutte pour nous sans que l'on s'en rende compte et sans qu'aucun esprit ne s'en mêle en réalité. Mmh. En fait, une manière assez simple de prouver que ce n'est aucun esprit mais bien les participants qui font bouger la goutte, c'est de faire une séance de Ouija où tous les participants ont les yeux bandés. Étonnamment, dans le cas où aucun des participants ne peut voir la planche, les esprits deviennent complètement analphabètes et ne savent pas aligner un seul mot ou des lettres pour faire des mots. Et donc, oui, désolé les Ouijeurs, pas sûr de ce nom, mais c'est bien du flan, la Ouija. Voilà. Bref, la mort, Les esprits et la potentielle existence de l'au-delà fascinent et sont source de nombreux mythes. On ignore ce qu'il se cache réellement après la mort, c'est difficile de l'accepter, mais c'est malheureusement le cas. Impossible d'aller vérifier par soi-même pour raconter ensuite son aventure funèbre aux vivants. Le passage ne se fait que dans un sens. Et si, en réalité, ce n'est rien que le vide, le néant qui nous attend, est-ce réellement une mauvaise chose ? La conscience de sa propre finitude pousse à profiter du temps limité que nous avons sur cette terre. Dans l'incertitude, il vaut mieux partir du principe que sa conscience s'éteint avec la mort. Si quelque chose existe après, tant mieux. S'il n'y a rien, tant pis. On aura kiffé au moins.
Bravo.
Merci beaucoup pour cette belle chronique maintenant qui conclut cette émission en beauté. Malheureusement, c'est déjà la fin de l'Happy Hour scientifique pour aujourd'hui. Merci beaucoup à notre invité Stéphane Charpier d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous.
À toute la team de l'Happy Hour aujourd'hui avec nous, Alban, Chiara, Cléo, Jocelyn, Nathan et Sacha et Pierre-Yves à la Réal. Et quant à vous, chers auditeurs, prochain rendez-vous de l'Happy Hour scientifique le jeudi 5 décembre prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram @hhscientifique et à écouter toutes nos anciennes émissions en replay sur votre plateforme de streaming favorite. Salut!
Et au revoir, et puis, bon retour, hein. Au revoir, messieurs.